Et chaque soir, pendant cette période des fêtes, on vous raconte ce monde qui change. On vous raconte les grandes évolutions de cette année 2019. On a fait le choix de s'arrêter ce soir sur nos comportements alimentaires. 2019 a-t-elle changé notre façon de manger, notre façon d'aller faire les courses et de choisir ces produits? On en parle ce soir avec Nathalie Damery, elle est cofondatrice et présidente de l'Observatoire Société et Consommation, l'Obsoco. Bonsoir.
Bonsoir.
Nathalie Damery, merci d'être avec nous. Et avec Olivier Andreau de l'UFC Que Choisir, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de mission alimentation et nutrition et vos enquêtes de l'UFC Que Choisir font généralement beaucoup parler. On va réécouter aussi chaque soir les archives d'Europe 1 de cette année, ces archives qui donne le ton, vous allez le voir d'abord avec ce témoignage d'une auditrice qui, au mois de juin dernier, a composé le 39-21 et qui nous raconte ses nouveaux comportements. Vous allez voir, elle en parle assez bien.
Nous, ce que nous faisons, c'est qu'on visite la ferme, on voit ce qui se passe, comment ça fonctionne, et toutes les semaines, quand on va chercher notre panier, on discute avec l'agriculteur. Donc on a des produits qui sont frais, qui est la base de notre alimentation. Donc pour moi le bio c'est aussi ça, parce que c'est vrai que on voit aussi des tomates bio au mois de janvier. C'est de l'aberration.
Voilà, elle dit beaucoup de choses, cette auditrice elle dit beaucoup de choses sur ses comportements de 2019. Nathalie Damery, j'ai retenu deux chiffres. Le bio, justement, dont cette auditrice parle, 9,7 milliards en 2018, 15% de croissance. La consommation de viande, moins 12% en 10 ans. Qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que les Français sont de plus en plus intéressés à manger d'une part sainement. Donc il y a un rapport à la santé qui s'est vraiment accru ces dernières années. Et puis un deuxième élément que j'aurais peut-être dû dire en premier d'ailleurs, qui vient d'un peu plus loin, même parce que ce sont des temps assez longs, qui vient de la défiance à l'égard de l'agroalimentaire. Donc c'est un mouvement long, mais qui s'est cristallisé ces dernières années, notamment sur la consommation de la viande.
Olivier Andreau, vous la ressentez, vous, à l'UFC Que Choisir, cette défiance envers l'industrie agroalimentaire?
Bien sûr, parce que non, il y a deux évolutions. La première évolution, c'est, il faut quand même le rappeler, c'est que notre alimentation, maintenant, c'est d'abord des produits transformés. Malgré ce que peuvent dire les consommateurs, disant que oui, bien sûr, ils se remettent à cuisiner, mais c'est essentiellement le week-end quand ils le font. De plus en plus, on mange des produits transformés, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus directement pieds et mains liés par rapport aux recettes, mais aussi aux approvisionnements de l'industrie agroalimentaire. Or, on a, en revanche, très peu d'informations sur la manière dont l'industrie va aller chercher ses ingrédients et comment elle les transforme. Et avec ce deuxième aspect qui sont finalement la multiplication de ces scandales alimentaires qui, presque année après année, viennent révéler les défauts de toute cette chaîne d'approvisionnement et de transformation de l'industrie agroalimentaire, maintenant, il y a une véritable soif de transparence de la part des consommateurs et une volonté finalement de reprendre la main par rapport à cette évolution où progressivement les consommateurs ont été dessaisis de leurs responsabilités.
Alors on viendra tout à l'heure à ces nouvelles manières justement d'accéder à l'information quand on consomme. D'abord sur les habitudes et les comportements, il y a une prise de conscience. On va chercher local maintenant.
Oui, alors on va chercher local, alors le local aussi est chargé d'un imaginaire qui peut être, enfin c'est pas forcément très rationnel tout cela, le local serait sans pesticides par exemple. Enfin on assiste à un imaginaire très très fort aujourd'hui qui vient aussi brouiller un peu les pistes. Le local, le bio, mais quand il est de source française, puisqu'on parlait tout à l'heure des tomates, les tomates qui viennent d'Espagne et qui sont bio ne sont peut-être pas fabriquées, ne sont peut-être pas...
Pas si écolo, en tout cas.
Voilà, c'est ça, pas si écolo que ça. En tout cas, et conditions sociales peut-être un peu particulières. Et puis on rentre dans cette idée, effectivement, que l'autoproduction, donc le jardinage, le fait d'élever des poules et des lapins éventuellement, y compris sur son balcon, pourrait être une solution alternative. En réalité, comme vous le signalez là tout à l'heure, la grande demande c'est la transparence, la traçabilité et d'être rassuré. Il y a très 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 fort désir de rassurance et donc tout ce qui peut contribuer à l'imaginaire de la rassurance rentre aujourd'hui dans la composition des repas.
Et le bio arrive aussi à la cantine pour nos enfants. C'est la loi alimentation qui a imposé que les repas servis dans la restauration collective soient composés à 20% issus de l'agriculture biologique. Ça, cette mesure doit entrer en vigueur en 2022. Mais il y a déjà des effets dans un collège. Écoutez ce reportage de Stéphane Place.
À l'école, avant, tout n'était pas bio. Au collège, quand on a mangé ici, on a vraiment senti la différence. Rien que le pain, tout est bio. La sauce, tout. Quand on nous dit la cantine est ouverte, on court quoi.
Ça change. On a du bon pain, on a des bonnes tomates.
Près de 400 repas 100% bio servis chaque jour ici au collège de Belvès. C'est dans la cuisine, des cagettes de légumes par exemple, livrées le matin même par un producteur qui se trouve à 5 minutes de l'établissement, le chef cuisinier Alain Dessay.
Regardez les couleurs, c'est quand même magnifique. Ça c'est tomate là, on va s'en servir pour faire des sauces. Nous avons un producteur de viande à 12 km d'ici qui nous produit toute la viande. Mais nous travaillons aussi avec une plateforme Manger Bio Périgord. Elle collecte sur l'ensemble du département tous les fruits et légumes.
Bio et local.
Voilà, on mange bio et local, y compris à la cantine. C'est aussi une demande des parents que leurs enfants aient accès à cette alimentation-là à l'école.
Bah effectivement, c'est important parce que le bio, c'est quoi comme promesse? C'est tout d'abord pas de pesticides et d'engrais de synthèse. Donc ça veut dire que ça a un intérêt environnemental évident, mais aussi un intérêt sanitaire. On voit là encore un grand type de scandale sanitaire qui arrive régulièrement, bien que les autorités européennes et françaises n'arrêtent pas de nous rassurer sur les procédures d'autorisation des pesticides, mais on se rend compte que malgré toutes ces procédures, chaque année, il y a tel pesticide qui est tueur d'abeilles, tel pesticide qui se révèle être cancérigène, etc. Donc évidemment que le bio, c'est un moyen de protéger sa santé, de protéger l'environnement. Encore faut-il qu'il soit accessible.
C'est clair, oui, parce que pour ça coûte cher, le bio.
Et oui, ça coûte cher pour deux types de raisons, une bonne et une mauvaise. Une bonne raison, c'est que quand on ne booste pas la production des végétaux par des pesticides et des engrais de synthèse, c'est vrai que le rendement est moindre au champ. Et donc, c'est normal que, sorti des mains de l'agriculteur, ça coûte un peu plus cher. En revanche, il y a une mauvaise raison, c'est les marges, notamment de la grande distribution. En effet, nous avons publié une étude en septembre dernier qui montrait que, en moyenne, les fruits et légumes, il y a déjà 50% du prix, c'est de la marge de la distribution. Et c'est encore plus vrai pour les fruits et légumes bio, puisque là, finalement, c'est presque double peine, puisqu'on a à peu près 87% de surmarge sur le bio par rapport aux équivalents conventionnels.
Et c'est une étude de l'UFC Que Choisir qui avait fait beaucoup parler, je m'en souviens, à l'époque, la grande distribution qui profite finalement de ce succès du bio. Mais le bio, c'est quand même que 5% de l'alimentation des Français, c'est pas encore massif.
Non, c'est pas encore massif, et effectivement, ça concerne des tranches sociales, des revenus plutôt élevés, d'où les coups de pouce qui sont faits ici et là, et notamment
pour être clair,
pour les cantines
scolaires. C'est un truc d'urbain et un peu de bobo, on va dire,
non,
le bio.
Non, le bio aujourd'hui, c'est vraiment, on n'a plus ces effets comme on a pu l'avoir il y a une dizaine d'années sur des phénomènes très très urbains. Tout le monde aujourd'hui est intéressé par la consommation de bio. Mais il est vrai aussi que vous avez une offre qui s'organise du côté notamment des producteurs directement, qui changent un peu de métier ou qui se font aider pour passer d'agriculteur à commerçant et qui donne aujourd'hui la possibilité, c'est pour ça qu'en province ça s'étend beaucoup, la possibilité d'aller chercher directement ou d'être présent sur des marchés producteurs ou autres. Il y a beaucoup plus d'offres qu'avant.
Oui, donc pour aller chercher local les paniers de légumes qui arrivent même au bureau parfois.
Oui.
Voilà. Le bio qui est aussi critiqué pour ses défauts, on en a beaucoup parlé cet été, on l'évoquait, ces tomates cultivées sous serre chauffée, elles sont certes bio, mais pas forcément écolo. Écoutez, c'était au mois de juillet.
Il existe aujourd'hui une quarantaine de serres chauffées qui abritent des tomates ou des concombres bio. Mais les projets se multiplient un peu partout en France. De cette manière, on obtient des tomates hors saison dès la fin du mois de mars. Ceux qui défendent cette méthode de production expliquent que cela permet d'avoir des produits français, contrairement aux tomates qui viennent d'Espagne, par exemple. Mais pour d'autres agriculteurs, cette méthode ne respecte pas l'esprit du bio. Et pendant l'été, ces tomates et concombres produits sous serre vont concurrencer les autres tomates bio qui auront poussé naturellement.
Voilà, c'était l'heure d'Autriche. Une tomate cultivée sous serre émet 8 fois plus de gaz à effet de serre que lorsqu'elle est cultivée naturellement. Et pourtant, elle a le droit au label bio. Il y a un problème avec ce label bio, il n'est pas parfait aujourd'hui.
Alors, je crois que tout d'abord, il faut rappeler que le label bio, il remplit ses promesses. Comme je disais à l'instant, ses promesses, c'est pas d'engrais et de pesticides de synthèse. Et là, c'est un signe officiel. Il est contrôlé par la DGCCRF, la répression des fraudes. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Tous nos tests comparatifs que nous réalisons année après année montrent que, alors qu'il y a des pesticides, alors certes, dans les doses admissibles dans les produits conventionnels, en revanche, on n'en trouve quasiment pas, voire jamais, dans les produits bio. Donc là, cette promesse, elle est tenue. En revanche, le problème qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le bio ? Est-ce que le cahier des charges, qui finalement est assez ancien, hein, qui date d'il y a plusieurs décennies, il est suffisant par rapport aux attentes sociétales ? Et la réponse est probablement non. Il faut le faire évoluer, il faut le faire progresser, parce que là, on a vu, par exemple, il y avait cette problématique de finalement de durabilité pour certains avocats qui sont cultivés dans des conditions où on va finalement encourager la déforestation par rapport à des rémunérations extrêmement faibles dans certains cas pour des agriculteurs. Donc finalement, il faut faire progresser le bio et probablement les autres productions conventionnelles pour avoir un minimum finalement de production qui soit durable par rapport aux gaz à effet de serre, qui soit équitable en termes de rémunération, qui soit éthique en termes de conditions de travail, etc. Mmh. Donc finalement, c'est plusieurs axes de progression pour lesquels on est en droit d'attendre que le bio s'améliore vis-à-vis de son cahier des charges.
Oui, Nathalie Damery, c'est aussi la preuve que le bio, il s'industrialise. On parlait de ses croissances à deux chiffres et on peut avoir un produit bio qui vient de finalement beaucoup plus loin qu'un produit
local.
Qu'est-ce qui est mieux, c'est de choisir un produit local ou un produit bio ?
Ah, les deux.
C'est très compliqué. On n'arrive pas toujours à trouver les deux.
Parce que, comme vous le signaliez, on mélange un petit peu tout. On mélange le bio, le pesticide, l'environnement, etc. Donc, tout dépend du curseur. Où mettons le curseur ? Si on met le curseur plutôt sur des questions de CO2, de dépenses environnementales, il est sûr que le bio local va être favorisé. En réalité, les consommateurs les plus avertis, parce que quelquefois, ils ne le sont pas toujours sur ces questions-là, font des arbitrages. Et c'est en fonction de leur valeur, leur motivation, qu'ils vont faire le pas d'acheter du bio à l'étranger ou non. Mais il est sûr que dans l'imaginaire le plus positif qui soit, bio et local, c'est mieux.
Et on va voir dans un instant justement comment on s'y retrouve et comment on arrive à avoir accès à l'information sur les produits, nouvelle manière de consommer, faire ses courses avec un smartphone à la main. C'est aussi une nouvelle tendance apparue en 2019. À tout de suite.
Tous les véhicules ont une histoire sur autorigine.com. Avec juste une plaque d'immatriculation, autorigine.com vous délivre un rapport d'historique de véhicules d'occasion. Pour éviter les mauvaises surprises, testez dès maintenant autorigine.com. Aldi.
Ah, c'était bien Noël, mais entre les cousins, les oncles...
Le grand-parent et les petits-nouveaux...
Ouais, on se régale aussi bien là, à deux.
Ouais. Oh, tiens, passe-moi une patate.
Après Noël, fondé pour un repas en toute simplicité. Chez Aldi, la raclette nature en tranche élaborée en France avec du lait français est au prix de 4,99€ les 800 grammes. Pour des fêtes tout simplement gourmandes. Et ce dimanche, votre magasin Aldi est ouvert. Soit 6,24€ le kilo. Offre valable du 26 au 30 décembre selon ouverture et dans la limite des stocks disponibles. Horaire d'ouverture sur le site aldi.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Et à 19h23, c'est le moment de jouer, puisque jusqu'au 5 janvier, on vous couvre de cadeaux sur Europe 1. Il y a eu des robots cuiseurs multifonctions, des smartphones, des voyages. Vous avez aussi gagné des thalasso. Et aujourd'hui, écoutez bien, vous tentez de gagner un séjour d'une semaine pour 4 personnes sur les 185 km de piste de ski de Risoul 1850 dans les Alpes du Sud. Station d'ailleurs qui fête ses 50 ans cette année. Tout est compris en plus, l'appartement de location et les forfaits de ski sur le domaine de la Forêt Blanche. Envie de décrocher votre première étoile, peut-être, alors n'hésitez pas. Vous inscrivez dès maintenant, vous appelez le 3921, c'est 50 centimes la minute, ou vous envoyez le mot de passe sapin par SMS au 739-21, 75 centimes plus coût d'un SMS. Il vous faudra 3 messages pour jouer. Bonne chance. 24, la suite de la rétro dans votre grand journal du soir avec vous. Aujourd'hui, Sébastien, Olivier Andreau de l'UFC Que Choisir et Nathalie Damery de l'Observatoire de la Consommation.
On parle ce soir de nos nouvelles façons de consommer, de s'alimenter, de faire ses courses avec nos invités. Nathalie Damery, vous qui observez nos comportements, est-ce que vous direz que les Français aujourd'hui regardent beaucoup plus, comprennent mieux les étiquettes ?
Comprennent peut-être, je ne sais pas, regarde beaucoup plus, oui. On a une proportion absolument époustouflante. Il y a 60% des Français qui se disent méfiants à l'égard de leur alimentation. Donc ce besoin de rassurance passe par le contrôle, et le contrôle passe par, effectivement, la lecture des étiquettes quand elles sont lisibles, et puis aussi le recours à des plateformes ou des types d'informations qui viennent préciser tel et tel composant de l'ingrédient.
Et il y a les outils mis en place par le gouvernement avec ce Nutri-Score qui est apparu sur les produits, Olivier Andros, sauf que vous avez sorti, vous, l'UFC Que Choisir, une étude qui montre que ce Nutri-Score, donc A, B, C, D, E, en fonction de la qualité nutritionnelle des produits, ce Nutri-Score, il n'est apposé que sur 5% des produits en grande surface. Ça veut dire que les industriels ne jouent toujours pas le jeu.
Les industriels et les pouvoirs publics. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faudrait rappeler à nos auditeurs. On parle souvent du méchant lobbying de l'industrie agroalimentaire. Mais pour faire du lobbying, pour qu'il soit efficace, il faut être à deux. Il faut que l'administration, les parlementaires, les pouvoirs publics qui écoutent les lobbyistes, il faudrait qu'ils résistent et il faudrait qu'ils protègent les consommateurs. Or, ce qu'on voit, eh bien, c'est que la plupart du temps, ils cèdent aux demandes des lobbyistes. Alors que toutes les ONG, les associations de consommateurs, les sociétés savantes, les nutritionnistes demandent à ce que le Nutri-Score soit obligatoire, eh bien, il est encore volontaire, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de volonté publique suffisante, ni en France, ni au niveau européen. Oui, alors même que c'est une information fondamentale. Ouais. Rendez-vous compte. Nous, on a étudié la qualité nutritionnelle, enfin qualité, c'est un grand mot, des produits qui sont destinés aux enfants, spécifiquement, au petit déjeuner, aux 4 heures.
Les goûters, les céréales.
Et on se rend compte que la majorité d'entre eux, les céréales du petit déjeuner, la majorité, c'est le même Nutri-Score qu'un croissant au beurre. Pour le goûter, c'est encore pire. Soit ça a la même qualité nutritionnelle qu'un beignet fourré au chocolat, donc Nutri-Score D, pire, la qualité nutritionnelle d'un brownie Nutri-Score E.
Ça veut dire que quand on cherche le Nutri-Score, donc cette lettre A, B, C, D, E et ce code couleur, et qu'on ne le trouve pas, ça veut dire que probablement la note est mauvaise.
Mais bien sûr. Pourquoi ? Parce que ça fait maintenant des décennies que l'industrie agroalimentaire a utilisé les agents de texture, des arômes et surtout des additifs ou des composants qui vont finalement solliciter le jeune consommateur pour qu'il préfère leur produit. Et ces composés, c'est notamment le gras, le sel, le sucre. Ça coûte pas cher et c'est le meilleur moyen finalement de préférer, faire que votre produit soit préféré par rapport aux concurrents.
Et alors pour que ces logos soient obligatoires, il faudrait que ça passe par une décision européenne. C'est une bataille qui se joue en réalité à Bruxelles. Et d'ailleurs, les députés européens écologistes ont mené une action. C'était au mois de novembre. Écoutez, Isabelle Horry les a suivis.
L'élu écologiste Michel Rivasi fouille dans les rayons.
Je vois plein d'autres produits avec des couleurs lumineuses, tout, mais il n'y a pas de Nutri-Score. Donc je regarde sur une application, et ben vous voyez là, à base de chocolat, on est à D. Là, on est à E. Si on veut être efficace, il faut que 100% des produits soient marqués avec l'étiquetage Nutri-Score.
Pour rendre le Nutri-Score obligatoire, il faut une législation européenne parce que les entreprises doivent toutes avoir les mêmes règles dans le marché unique. Une initiative citoyenne a donc été lancée. Si 1 million d'Européens signent ce texte, alors Bruxelles sera obligée de légiférer.
On sait où ça en est, cette pétition. Il faudrait 1 million de signatures.
Alors, oui, effectivement, nous avons déjà recueilli 80 000 signatures de consommateurs français et européens. Mais il faut continuer. Donc, c'est pour ça que j'en profite pour rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent se rendre sur le site pronutriscore.org.
Nathalie Damry, donc, les consommateurs regardent les étiquettes et regardent aussi leur smartphone. Maintenant, on peut s'informer avec son smartphone. Il y a un certain nombre d'applications comme ça.
Exactement.
C'est généralisé. Là,
ça s'est généralisé. On fait la part belle à Yuka, mais il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui une sorte de match, en tout cas de bataille qu'il y a entre les pros de type les pros de l'information directe consommateur de type Yuka, et puis des initiatives qui se font par l'industrie agroalimentaire qui est teintée un peu de méfiance, alors qu'il n'y aurait pas forcément lieu, en tout cas tout cela peut se discuter, et puis vous avez aussi les distributeurs eux-mêmes qui mettent comme système U par exemple qui ont créé leur propre
application.
Exactement.
Ouais. On peut y croire à l'information qu'on trouve sur ces applis type Yuka. Je disais que Yuka c'est 14 millions de téléchargements et 14 millions de personnes qui l'ont sur leur téléphone. On peut croire à cette note qui est affichée lorsqu'on scanne un produit avec son smartphone.
Ben ça dépend. Et ça dépend tout d'abord de la fiabilité de la base de données. En effet, il faut savoir que beaucoup de ces bases de données sont constituées par les consommateurs eux-mêmes. Et c'est un geste.
Alors, si on doit en choisir une, vous choisissez laquelle ?
Écoutez, moi, je vous avoue qu'à ce stade, sur les applis alimentaires, je n'ai pas encore trouvé l'application idéale. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles l'UFC que je veux dire est en train de travailler à sa prochaine application qui sera précisément
vous
sur les produits alimentaires.
Vous allez créer la
vôtre ? Absolument. Hein, et elle donnera une information sur la qualité nutritionnelle via le Nutri-Score, mais aussi sur les additifs. Il faut savoir qu'il y a quand même pas moins de 300 additifs qui sont autorisés dans la réglementation européenne, excusez du peu, et sur ces 300, il y en a quand même 87, presque un quart, qui posent problème du point de vue sanitaire. Donc, c'est important d'informer les consommateurs.
Ça change les comportements des consommateurs. 94% des utilisateurs de ces applications disent arrêter d'acheter certains produits. 83% disent acheter moins, mais mieux. Ça veut dire que ça peut détourner aussi le consommateur, par exemple, de ces aliments ultra transformés dont on parle souvent, qui sont accusés d'être cancérogènes, etc.
Bien sûr, on a de plus en plus, et ça c'est vraiment, si on doit retenir quelque chose de 2019, c'est le point de cristallisation sur les changements alimentaires. Dans les déclarations, dans les déclarations, les gens disent de faire de plus en plus attention et pour 30% d'entre eux d'avoir changé réellement les habitudes alimentaires. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite avec en agrégeant petit à petit des choses et tout d'un coup ça fait sens et on va se détourner d'un certain nombre d'aliments. Donc on va peut-être parler de la viande, mais la viande, le sucre, le gras, etc. Vont être des marqueurs qui aujourd'hui vont vraiment faire réfléchir.
Parce qu'on est mieux informé aussi.
Parce qu'on parle énormément aussi de tout cela et parce que on a une encore une fois la santé c'est un on a tous conscience que c'est un capital dont il faut si ce n'est préserver au moins essayer de faire fonctionner avec tous les bons ingrédients et la nourriture aujourd'hui est passée au premier plan de cet intérêt pour le capital santé.
Et ça a un impact parce que les industriels du coup sont poussés à changer leur recette. Je disais par exemple que Intermarché a annoncé le retrait de plus de 140 additifs dans 900 de leurs produits. D'autres marques ont annoncé changer leurs recettes. Ça veut dire que la pression de ces applis, des consommateurs, de toute cette information qui est maintenant disponible, force à avoir des meilleurs produits en grande surface. Olivier Andreau,
Effectivement, c'est le deuxième effet de ces applications. Outre l'intérêt pour le consommateur, qui va pouvoir protéger sa santé, c'est que ça met la pression sur les fabricants. Il faut savoir que les consommateurs lisent très peu les listes des ingrédients des produits alimentaires, même s'ils
sont très difficiles à comprendre, il faut dire. On n'a pas toujours E319 ou je ne sais quel additif, on ne sait pas à quoi ça correspond, par exemple.
Et puis, elles sont toujours très lisibles. Vous savez que la taille minimale qui est réglementée, c'est 1,1 mm. Et vous avez parfaitement le droit, si vous êtes fabricant, d'imprimer une liste des ingrédients en doré sur marron. J'ai déjà vu encore hier dans les rayons.
Donc, si vous n'avez pas vos lunettes sur vous, c'est pas gagné, quoi.
Ben voilà. D'où l'intérêt de ces applis, finalement, qui c'est comme si vous aviez un ingénieur dans votre poche qui va vous décrypter tout de suite la liste des ingrédients. Et donc, c'est ça, finalement, le deuxième pouvoir de ces applications, c'est quand vous avez des millions de consommateurs qui, quotidiennement, vont scanner les produits et décider d'acheter ou de ne pas acheter un produit, bien ça met la pression sur les fabricants et sur les services de recherche et développement.
En tout cas, en 2020, on ne sera jamais aussi bien informé sur ce qu'on mange et sur ce qu'on consomme. Nathalie Damas.
Oui, je l'espère. On l'espère tous.
Merci beaucoup d'être venus tous les deux ce soir. Nathalie Damas, cofondatrice et présidente de l'Observatoire Société et Consommation et Olivier Andreau, chargé de mission alimentation, nutrition à l'UFC Que Choisir. Merci beaucoup et très belle fin d'année à vous.